BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Noguès.
Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens en coopération avec Euronet Plus, qui est le premier fournisseur de pétrole de l'Union Européenne. La Russie avec les pays de l'OPEP et la Norvège. Qui est le premier fournisseur de gaz de l'Union Européenne? La Russie avec la Norvège et l'Algérie. Qui est le premier fournisseur de charbon de l'Union Européenne? Bon, on a tous compris, hein. La Russie. Donc quand la Russie, bandant ses muscles, outrageusement huilé, change les frontières de l'Europe 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Florence Autré, on s'écrase.
Mais non, on discute, on essaye de trouver une position commune, de modérer les sanctions comme l'ont fait les chefs d'État cette semaine.
Ouais, Florence Autré, la Tribune, la GFI avec les Russes. Qu'est-ce qui prime finalement, le droit international ou le droit du plus fort?
Ah, pour eux, clairement, le droit du plus fort.
Ouais. Et pour nous?
Et on essaye de faire prévaloir le droit international, mais c'est pas évident, c'est asymétrique, comme on voit.
Quand on est européen et que l'on écarte toute option militaire, cela nous place en position de faiblesse. Gaston Franco?
Bon, écoutez, on peut pas dire qu'actuellement on donne l'impression de force, mais je crois quand même que nous avons des munitions. Parce que le fait que la Russie soit le premier fournisseur de gaz de l'Europe, ça veut dire que nous représentons une part importante de son budget. Donc chacun se tient par la barbichette.
Je crois qu'on est d'accord, chacun se tient par la barbichette. D'ailleurs, Gaston Franco, eurodéputé UMP, a lui-même une jolie barbichette. Y a-t-il, à votre avis, Jean Quatremer, des alternatives à l'énergie russe?
Bah écoutez, là on voit le lobby du gaz de schiste qui se réveille, c'est très intéressant. Mmh. Donc finalement, on se fâche avec les Russes pour sauver la Crimée, et puis on va polluer nos territoires, c'est intéressant comme alternative. Je trouve que ce qui se passe actuellement est passionnant.
Voilà, Jean Quatremer, le blog Coulisses de Bruxelles et Libération. Comment se dégager de l'emprise de Vladimir Poutine? Comment pourrait-on se passer du gaz et du pétrole russe? Nous allons parler justement, Jean Quatremer le mentionnait, nous allons parler du gaz de schiste ou encore de ce méga projet de panneaux solaires Desertec. Voilà le programme de ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Alors la Russie exporte 53% de son gaz vers l'Union Européenne. Ça représente, hein, grosso modo, 17 milliards d'euros chaque année. Samy Andoura, bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'Institut Notre Europe, Jacques Delors, vous êtes titulaire de la chaire de politique énergétique de l'Union Européenne au Collège d'Europe. Je vous pose à peu près la même question. Il est possible de faire sans la Russie en matière d'approvisionnement énergétique pour nous, Européens?
Alors, à court terme, non. Mmh. Après, il faut voir ce qu'on entend par faire sans la Russie. Est-ce que c'est faire sans la Russie via l'Ukraine? Est-ce que c'est faire sans la Russie complètement, c'est-à-dire se passer de ces 30% de gaz russe? Il y a également 30% du pétrole qui est consommé dans l'Union Européenne qui vient de la Russie. Donc c'est évidemment des enjeux majeurs, sachant qu'il y a une grande différence d'un État membre à l'autre. Il y a des États qui consomment très peu de gaz russe.
C'est le cas de la France.
La France, mmh. Et tout à fait. Et puis d'autres qui consomment 100% de leur gaz depuis la Russie.
C'est le cas de la Bulgarie, c'est le cas de la Lituanie, je crois.
Tout à fait. Et puis d'autres comme l'Allemagne qui consomment environ une trentaine de pourcents de leur gaz en provenance de la Russie, mais en termes de volume, ça représente beaucoup, beaucoup de gaz.
Alors Samy Andoura, vous disiez qu'il y a des stratégies de contournement. La question, c'est de voir, est-ce qu'on essaye de faire sans les Russes ou sans l'Ukraine? Alors, ce qu'on a essayé de faire jusqu'ici, parce qu'on se souvient de ce robinet coupé par les Russes, hein, c'était à l'hiver 2009, où c'est certains pays européens qui se sont vus privés de gaz. Alors, il y a un contournement par le Nord, avec les pipelines, c'est le Nord Stream, et puis il y a un autre contournement par le Sud, le South Stream, c'est ça?
Alors c'est un contournement de l'Ukraine, ça c'est évident.
Ça c'est vis-à-vis des Ukrainiens. On contourne l'Ukraine pour éviter les gazoducs qui passent par l'Ukraine. Après, c'est quoi l'autre stratégie de contournement, ou plutôt pour éviter les Russes? Ça aurait été Nabucco?
Alors c'est le Nabucco. Nabucco en tant que tel avec ce nom n'existe plus vraiment, mais c'est le corridor sud qui est en compétition avec le South Stream russe et qui, en fait, le but est de faire venir du gaz de l'Asie centrale, de la Caspienne, donc d'Azerbaïdjan, de Turkménistan, vers l'Union européenne en contournant cette fois-ci la Russie.
Alors Samy Andoura, je profite du fait d'avoir un expert à mes côtés, Jean Quatremer, qui me fait des grands signes depuis tout à l'heure et qui me dit manifestement, Yann Anthony, tu ne comprends rien à ces histoires de gazoduc. Jean, c'est quoi cette histoire de gazoduc entre Nord Stream, South Stream, Nabucco? Qu'est-ce qu'on peut faire
parce qu'il ne faut pas confondre le contournement de l'Ukraine et donc avec du gaz qui viendrait directement de Russie et d'approvisionnement alternatif, ce qui est le cas par exemple du pipeline qui va passer par la Grèce. D'ailleurs, la grande joie de la Grèce, qui trouve ainsi enfin un relais de croissance grâce au gaz qui va être acheminé justement de l'Azerbaïdjan, je crois, et qui nous permet ainsi d'être moins dépendant du gaz russe. Il y a des alternatives, hein. Il y a aussi le gaz liquéfié, par exemple, que les Qataris et autres sont prêts à nous livrer, et ça nous permettrait d'échapper justement à la dépendance russe. Il y a des tas de choses qui peuvent être faites, par exemple, on a commencé à faire en 2008, on a commencé à installer des valves qui permettent d'inverser le flux. Jusqu'à présent, la plupart, à part la Belgique, notamment, la plupart des pays avaient un flux à sens unique. Donc on ne pouvait pas renvoyer du gaz en surplus, par exemple, vers la Bulgarie. Bon, on est en train de changer tout ce système-là. On a des vannes qui sont installées et on va pouvoir aider les pays qui sont dépendants, entièrement dépendants du gaz russe en renvoyant nous-mêmes notre production.
Ça fonctionne comment, concrètement, vous qui êtes ingénieur, Jean-Quatremer? Non, mais alors, avec ces petits tuyaux, non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instant...
Ça veut dire que si on a trop... Par exemple, on a du gaz, mais on n'a pas besoin, on n'est pas dépendant du gaz russe.
Que nous-mêmes, on achète... Non, parce qu'il a été question lors de la crise ukrainienne, si jamais les Russes voulaient vendre à l'Ukraine un gaz hors de prix, on aurait pu, nous, voilà, Européens, l'acheter directement aux Russes et le revendre aux Ukrainiens.
Absolument. Et en plus, on a des sources d'approvisionnement en Algérie et ailleurs. On peut faire venir du gaz liquéfié et ensuite envoyer ce gaz vers la Bulgarie et le vendre ça ou à l'Ukraine, pourquoi pas.
Oui, moi je voulais juste dire un mot sur le corridor sud ex-Nabucco. C'est pas non plus la solution miracle, dans le sens où dans la mesure où c'est du gaz qui vient de la Caspienne et que la Caspienne reste quand même une zone d'influence russe. Et c'est pour ça aussi que ce sujet est si difficile à mener à bien. Donc, il faut peut-être aller voir un peu plus loin dans la mesure où la piste iranienne est un peu bloquée compte tenu de la position de l'Iran vis-à-vis des Européens notamment. Donc, voilà, le corridor sud, c'est pas la solution miracle. Et en fait, il faut explorer, c'est toute la politique énergétique européenne qui est en cause. C'est sa politique d'économie d'énergie, c'est la diversification des approvisionnements, effectivement, mais pas, et aussi sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.
Gaston Franco, eurodéputé UMP, c'est quoi la solution miracle, à votre avis?
Ah, s'il y en avait une, on l'aurait bien trouvée. En tout cas, je suis d'accord, tout à fait, c'est pas uniquement du gaz dont il faut parler. Et c'est pas uniquement de la relation avec la Russie à travers le problème du gaz aujourd'hui qu'il faut disserter. C'est la relation en général avec la Russie qui aujourd'hui est sous les feux de la rampe. Moi, je pense que par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, c'est quand même un formidable bilan négatif. En fin de compte, nous n'avons pas mis en relation les outils diplomatiques, réussi à convaincre la Russie, non pas de nous lâcher l'Ukraine, mais de se rapprocher réellement de l'Europe. Et aujourd'hui, les Russes utilisent l'arme du gaz ou une menace, comme ils le font régulièrement, sans que sur ce domaine précis, l'Europe est réellement avancée. Il faut une situation de crise comme celle-là pour qu'on avance à petits pas, mais les problèmes de fond sont toujours pendant l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Il n'y a aucune cohérence dans la démarche sur le plan européen.
La centrale d'achat commune, Gaston Franco, ça c'était vraiment un des projets portés par Nicolas Sarkozy en 2008 lors de la présidence française de l'Union européenne.
C'est la question
qu'on m'a posée. Ça avait été érigé en priorité absolue.
Dans la première réunion de campagne pour les Européennes la dernière fois, la question qu'on m'a posée, que pensez-vous de la proposition de Nicolas Sarkozy de créer une agence européenne du gaz?
Et alors vous en pensez quoi?
Ben il s'est rien passé. En tout cas, j'en pense beaucoup de bien, mais en tout cas nous constatons 5 ans après que nous n'avons pas progressé.
Et pourquoi?
Mais parce que ça reste une compétence de chacun des États membres. Chacun y voit une souveraineté, un enjeu stratégique. Chaque opérateur continue à négocier individuellement ses propres contrats.
On y arrive, parce qu'en fait, les prix pratiqués par Gazprom, c'est assez intéressant. Là, je vous donne des chiffres qui datent de 2012, parce qu'en fait, on a l'impression que les prix semblent fixés aléatoirement. Les Russes divisent pour mieux régner. La Pologne et la Hongrie, par exemple, les deux pays importent 55% de leur gaz de Gazprom. La Pologne est facturée 375 euros pour les 1000 m3, alors que la Hongrie, elle est facturée 290 euros pour les 1000 mètres cubes. L'Italie, la Roumanie, la Slovaquie, c'est 300 euros. La France, la Finlande, 290 euros aussi les 1000 mètres cubes. Puis finalement, en fait, le pays européen qui s'en sort le mieux, ce sont les Pays-Bas. Eux, ils sont facturés 270 euros les 1000 mètres cubes. Bref. Une fois qu'on a tout ce petit monde autour de la table, on comprend qu'il y a certains pays comme les Polonais qui rêveraient d'avoir une centrale d'achat commune. C'est un peu comme le débat comme sur les eurobonds, hein, finalement. Et de l'autre côté, il y a des pays qui ne payent que 270 euros, Jean.
Je vous rappelle, et tout le monde l'a un peu oublié, qu'il y a une enquête en cours de la Commission européenne sur les prix du gaz pratiqués par Gazprom. Mmh. Et notamment parce qu'il y a tout un système d'indexation sur le prix du pétrole qui a été mis en place par Gazprom. Et normalement, la décision aurait dû sortir depuis un petit bout de temps. Et la Commission l'a mis sous le coude. Pourquoi ? Parce qu'on se préparait à signer un accord d'association avec nos amis ukrainiens. Et je vous fiche mon billet que la décision condamnant Gazprom pour manipulation des prix du gaz va tomber incessamment sous peu.
Samy Andoura, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des relations entre Bruxelles, la Commission européenne et Gazprom ? C'est hautement stratégique ?
C'est hautement stratégique et je crois que la Commission européenne et les institutions soutenues par un certain nombre d'États membres sont de plus en plus fermes vis-à-vis des Russes. Ça touche aussi bien ce que M. Quatremer vient de mentionner par rapport au prix et Gazprom. Ça touche aussi le fait qu'on impose maintenant aux Russes de respecter les règles européennes à partir du moment où ils opèrent sur nos marchés. Et un exemple, le South Stream, la Commission a dit aux Russes « Votre projet viole le droit communautaire. Dans ces conditions-là, si vous ne changez pas les contrats que vous avez conclus avec les États membres, nous annulerons ce projet parce qu'il est contraire au droit. » Sur la Russie et la centrale d'achat, je voudrais juste revenir sur un élément. Il faut de la flexibilité. On ne peut pas concevoir à l'heure actuelle une centrale où, d'un coup, ce sera l'Union européenne qui va acheter tout le gaz vis-à-vis de tous les fournisseurs, etc.
Et pourquoi pas ?
Parce que les opérateurs de marché ne l'accepteront jamais, qui sont soutenus par les États membres, et surtout par les gros États membres qui soutiennent leurs gros industriels énergéticiens. En revanche, plutôt que de dire pour ou contre tout ou rien, il faut permettre de créer un instrument qui permettra aux États membres et leurs compagnies qui le souhaitent de se mettre ensemble pour négocier vis-à-vis d'un fournisseur et d'acheter du gaz avec un certain nombre de volumes. Et ce serait déjà, soutenu par l'Union européenne, une avancée
donc une sorte de coopération renforcée énergétique. Très bien. Florence Autret.
Oui, je crois qu'en ce moment, on paye un peu le prix d'une défense un peu à court terme des intérêts nationaux et des anciens monopoles énergétiques nationaux. C'est quand même ça qui se passe. C'est-à-dire que si on est si dépendant, c'est aussi parce que le marché européen de l'énergie fonctionne mal, que les infrastructures sont pas à niveau, que les flux sont mauvais. C'est pour ça qu'il y a ces différences de prix aussi. Et on gaspille énormément d'énergie, c'est le cas de le dire, et d'argent à cause de ces dysfonctionnements du marché européen de l'énergie. Et pourquoi ça dysfonctionne ? Parce que, depuis les années 90, depuis qu'on essaye de mettre un peu de rationalité là-dedans, la France, l'Allemagne défendent leurs champions industriels nationaux. Donc on s'est, par égoïsme ou par nationalisme et par courte vue, on s'est aussi mis dans la main des Russes.
Merci infiniment. Samy Andoura, chercheur à l'Institut Notre-Europe Jacques Delors et titulaire de la chaire de politique énergétique de l'Union européenne au Collège d'Europe. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Nous, on reste ici avec Gaston Franco, eurodéputé UMP, et nos gaziers, Jean Quatremer et Florence Autret, ici bravo, je n'aurais pas fait celle-là. Juste après la pause, le patronat européen plaide en faveur du gaz de schiste. A tout de suite.
L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business.
L'émission qui va voir ailleurs, l'émission qui va voir dans les tuyaux de nos gazoducs européens cette semaine. Nous sommes en compagnie de Gaston Franco, eurodéputé UMP, de Florence Autret, La Tribune, La GFI, de Jean Quatremer, le blog Coulisses de Bruxelles et Libération. Tout de suite, nous parlons du gaz de schiste parce qu'on essaie de voir comment on peut se dépêtrer de cette domination russe en quelque sorte. On parle d'interdépendance, mais clairement, dans le bras de fer, j'ai plutôt l'impression d'avoir le bras de Jean Quatremer face au bras d'Arnold Schwarzenegger, de Vladimir peur. Poutine. Alexandre Affre est avec nous en ligne. Bonjour Alexandre Affre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur pour les affaires industrielles de Business Europe. Business Europe, les auditeurs de BFM Business connaissent bien. C'est le patronat européen. Alors comment se dégager de l'emprise de Vladimir Poutine? Comment pourrait-on se passer du gaz et du pétrole russe? La crise Est-Ouest pourrait-elle changer notre regard sur le gaz de schiste? Eh bien, c'est ce que vous souhaitez, vous, à Business Europe. Alors, le patronat européen, clairement, est en train de pousser, là, pour le gaz de schiste. Vous voyez une opportunité?
Je pense, en effet, le premier point, c'est peut-être de rappeler que la forte dépendance de l'Union européenne par rapport aux importations énergétiques est quelque chose de pas nouveau. Mmh. Mais évidemment, la situation en Ukraine, ces dernières semaines, agit un peu comme une piqûre de rappel et rappelle à l'Europe, à l'Union européenne, qu'il faut une stratégie forte pour diversifier nos sources d'énergie, aussi bien à l'export que d'un point de vue domestique. Et c'est là où, selon nous, le gaz de schiste a un rôle à jouer, fait partie des solutions. Ce n'est pas la seule solution, mais ça doit faire partie de la solution par rapport aux défis énergétiques de l'Union européenne, aussi bien en termes de sécurité d'approvisionnement, en termes de compétitivité et aussi par rapport aux objectifs climatiques. Il y a des solutions qui sont d'ordre de plus d'efficacité énergétique. Il y a aussi des solutions à trouver avec le déploiement des énergies renouvelables. Et ça, c'est des domaines où l'industrie européenne est aussi assez forte. Mais selon nous, le gaz de schiste doit faire partie aussi de ce mix de solutions. Et pour ça, il faut d'abord qu'on puisse explorer.
Vous avez l'impression qu'on est en train de passer un peu à côté du train quand on voit. Vous parlez d'un miracle, vous, aux États-Unis, là, avec ce qui se passe?
Oui, aux États-Unis, la situation est évidemment un vrai. En anglais, on dit game changer. Mm. Ils ont vraiment
ça change la donne.
Voilà, ils ont vraiment un avantage compétitif majeur par rapport aux industries intensives en énergie en Union européenne. Probablement qu'en Union européenne.
À tel point que maintenant, apparemment, du côté de l'Élysée, on commence à réfléchir à acheter du gaz issu, enfin d'origine, gaz de schiste aux États-Unis, chez nous en Europe, pour compenser le gaz russe. Juste pour rappel, on obtient du gaz de schiste à travers la fracturation hydraulique. C'est une technique qui implique l'injection de grands volumes d'eau ou de sable pour faire libérer le gaz piégé dans la roche. Et il peut y avoir des répercussions sur l'environnement et ça plaît pas aux écolos, ça.
Oui, mais sur ce point-là, je pense que c'est important de démystifier un peu le débat. Mmh. Pour nous, le sujet, c'est pas de dire qu'il faut zéro risque, qu'il faut zéro impact. Le point important, c'est qu'il faut pouvoir contrôler les impacts sur l'environnement. Et pour ça, il faut, à notre avis, être plutôt prudent ou ne pas aller vers des positions extrêmes en termes de principes de précaution. Parce que là, on bloque tout. On bloque on bloque l'exploration et on peut plus voir ce qu'il y a dans nos sous-sols.
Je résume ce que vous dites. Je résume ce que vous dites. Pas d'opposition dogmatique et basons nos choix sur des faits scientifiques. C'est ça?
Tout à fait.
Très bien. Gaston Franco, vous en pensez quoi? Eurodéputé UMP de la Côte d'Azur.
On n'a pas de gisement avéré de gaz de schiste entre Nice et Monaco.
Vu le prix au mètre carré, heureusement.
Heureusement pour nous. Bon, en tout cas, moi, je pense que la solution des problèmes énergétiques de l'Europe ne passe sûrement pas par la solution unique d'un redéploiement sur le gaz de schiste. Mais vous avez des pays en Europe, la Pologne par exemple, ou l'Angleterre, qui ont décidé, c'était leur droit, de lancer des explorations. Moi j'ai proposé dans ma commission Envie de se servir...
La commission environnement du Parlement européen.
Oui, on parle d'industrie, on parle d'énergie, on parle de tout un tas de choses dans cette commission.
Mais la commission où on a envie.
On essaie de donner envie. Mais moi, j'essaie, par exemple, d'être tout à fait pragmatique. Pourquoi ne pas mobiliser les moyens de l'Europe pour faire de la démarche polonaise un cas d'école? Puisqu'en fait, compte, on a vu beaucoup de choses. Ce fameux robinet qui s'enflamme aux États-Unis quand on l'ouvre. Après, on nous a...
Dans une cuisine. Voilà. Dans une cuisine, il y a quelqu'un, dans un documentaire, il y a un journaliste qui a approché sa flamme, une allumette allumette ou un briquet de l'évier et ça a pris feu. Voilà, effectivement.
Ça a marqué tout le monde, mais il paraît que ça ne venait pas exactement de gaz de schiste.
Ah bon.
En tout cas, le mal était fait. Mais moi, je ne défends pas le gaz. Moi, je pense qu'il faut, par exemple, qu'aux côtés de nos amis polonais, la recherche européenne se mobilise pour voir jusqu'où nous pouvons aller en matière d'amélioration de la recherche. Mais on pourrait également appeler à la mobilisation de la recherche européenne sur le stockage de l'énergie. Mmh. On parle très peu de l'hydrogène. Moi, je veux tout ce qu'on veut en ce qui concerne de l'éolien, mais je pense aussi que les points faibles de l'éolien sont clairement identifiés, le solaire aussi. Pourquoi ne pas mobiliser la recherche européenne sur l'amélioration du stockage, alors que chacun aujourd'hui cherche dans son coin et personne ne partage les résultats? C'est vraiment une ambition stratégique.
L'Europe divisée sur le gaz de schiste, donc vous l'avez dit Gaston Franco, la Pologne principalement, et puis également le Royaume-Uni, deux pays qui disposent de vastes réserves dans leur sous-sol. De gaz de schiste, ils sont partisans de l'exploitation. Et puis en face, il y a la France et la Bulgarie qui sont pas très chaudes, Jean.
Mais on a vu l'offensive pro-gaz de schiste commencer en juin dernier. Alors à une époque, on croyait que le débat était complètement enterré et que ça faisait partie des nouveaux.
Mais on est allé le chercher grâce à de la fracturation hydraulique.
Voilà, absolument. Et en fait, c'est la Commission qui l'a doucement lancé, mais avec la complicité de la France. Parce que la France a un double discours sur cette affaire. On se couche devant les écologistes, notamment José Bové, qui a dit le gaz de schiste jamais, comme les OGM jamais. Voilà, il y a des choses, des débats interdits en France. Comme le nucléaire d'ailleurs, c'est un débat aussi interdit dans un autre sens. Et on voit que le gouvernement, lui, commence à se poser de sérieuses questions, parce que le gaz de schiste a permis à l'industrie américaine de retrouver en compétitivité. Et j'ai vu le changement de terme à l'Élysée, parce que les conseillers de l'Élysée ne parlaient pas du gaz de schiste, ils ne parlaient plus que de la révolution du gaz de schiste. Or, le mot révolution, à gauche, ça a un sens positif. On parlait pas d'autre chose. Et là, je me suis dit, tiens, c'est curieux, pourquoi ils parlent de révolution de gaz de schiste? Et en fait, c'est à cause, effectivement, de la baisse du coût de l'énergie que ça implique. Donc, il faudrait poser le débat. Je pense qu'en France, le problème, c'est la confiscation du débat. Et c'est aujourd'hui, tel que c'est fait aux États-Unis, le gaz de schiste, ça pollue, ça détruit l'environnement. Il suffit d'aller voir les endroits où ont été récoltés le gaz de schiste. Moi, j'y suis passé, je peux vous assurer. C'est juste effrayant. C'est la planète Mars, c'est la réalité. Mais est-ce que ça sera toujours comme ça? Je veux dire, il faut voir un peu, par exemple, l'exploitation de pétrole au début, au 19e siècle, quand on exploitait le pétrole, c'était une catastrophe écologique. Maintenant, un puits de pétrole, c'est pas une catastrophe écologique. Donc, il faut réouvrir le champ du débat et la recherche.
Florence Autrey. Mais Jean, est-ce que c'est pas toujours comme ça quand il s'agit d'énergie? Tu as déjà visité une mine de lignite à ciel ouvert, c'est pas loin, à la frontière allemande. Moi aussi, je trouve ça beau, mais enfin, c'est quand même aussi la planète Mars.
C'est un énorme trou, c'est quelque
Donc,
chose...
Donc, je crois que... Et ce que tu dis, ça me rappelle le débat sur le nucléaire au moment où la thématique du climat est montée en flèche. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, on disait attention, réchauffement climatique. Et là, le lobby nucléaire s'est engouffré là-dedans, disant nous avons la solution. En réalité, toute politique énergétique doit gérer un dilemme. Vous avez trois dimensions. Vous avez une dimension stratégique de dépendance, donc parce que c'est évidemment un moyen de pression énorme dans les relations internationales, comme on est en train de le voir. C'est un élément de compétitivité, de coût. Et puis, c'est un élément plutôt environnemental, de savoir dans quelle mesure on s'autorise à pomper les ressources. Il n'y a pas de solution simple entre ces trois choses. Donc forcément, quand vous privilégiez un peu plus l'indépendance énergétique, vous risquez d'avoir des coûts plus élevés, parce que la France a des coûts assez bas, mais enfin, elle a quand même énormément subventionné son secteur nucléaire, donc l'indépendance énergétique de la France a un coût. Si vous privilégiez le climat, ça risque de vous coûter un peu cher. Si vous essayez de baisser le prix en achetant du charbon bon marché, vous allez pourrir l'atmosphère. Donc, je veux dire, après, c'est vraiment une question d'équilibre entre ces contraintes.
Le problème du gaz de schiste aujourd'hui, tel qu'il est pas récolté, mais exploité, c'est que le coût environnemental, il est immédiat. Le coût du nucléaire, il est différé. Mm-hmm. C'est-à-dire que le coût du nucléaire, on le paiera dans un siècle ou dans deux siècles.
Et c'est la complexité de l'équation.
Et c'est nos arrière-petits-enfants. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en France, notamment, il n'y a pas de débat.
Si on a la chance de ne pas avoir de catastrophe
d'ici là.
Alors, vous parliez de la façon dont l'Europe, la Commission européenne, bouge sur le gaz de schiste. Alors là, c'était assez récemment, fin janvier, Bruxelles qui a adopté une recommandation qui laisse la voie libre à l'exploitation du gaz de schiste en Europe, à condition de respecter des principes communs minimaux. Bref, on peut faire ce qu'on veut en Europe. Alexandre Affre, je rappelle que vous êtes directeur pour les affaires industrielles de Business Europe, le patronat européen. Vous êtes en ligne avec nous. Ça va dans le bon sens, là, pour vous, le gaz de schiste. On va y arriver, en gros. C'est ce que vous comprenez, vous.
Oui, la démarche de la Commission européenne, la proposition de la Commission européenne va dans la bonne direction. C'est une approche qui est de ne pas contraindre, mais d'encadrer.
Philippe Lambert, ce eurodéputé écolo belge, est arrivé là en régie. Il interviendra après le journal, mais je sens que quand je dis on va dans le bon sens, visiblement sur le gaz de schiste, il ne doit pas être d'accord. Voilà. Merci beaucoup Gaston Franco. Juste après la pause, nous allons parler de cette initiative Desertec. En 6 heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année. C'est ça qui fait réfléchir les promoteurs du projet Desertec. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en coopération avec Euronet Plus. On va voir si Jean Quatremer a suivi tout à l'heure depuis le début de l'émission. Qui est le premier fournisseur de pétrole de l'Union Européenne, Jean?
Les îles Canaries.
Les îles Canaries, bon. Non, sérieusement?
La Russie, évidemment.
Avec les pays de l'OPEP et la Norvège. Qui est le premier fournisseur de gaz de l'Union Européenne?
La Russie.
Avec la Norvège et l'Algérie. On se croirait à l'Eurovision.
J'adore.
One point, Russia, one point. Qui est le premier fournisseur de charbon de l'Union Européenne?
Stéphanie de Monaco.
Oui, c'est ça, la Russie. Une fois, mais l'ouragan est bel et bien russe. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, Jean Quatremer? Qu'est-ce qu'on fait?
Ben, d'abord, revenons à l'origine des conflits qu'on a avec les Russes depuis quelques années, parce que c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on a? Comment on a réussi à se mettre à dos les Russes? Comment est-ce qu'on a réussi à ne pas développer une politique russe? Parce que nous n'avons pas de politique russe. C'est ça le problème fondamental. On a eu la Géorgie qui était le premier alerte. Maintenant, on a l'Ukraine. On a été dans le jardin arrière de la Russie. Et les Russes ont fait savoir que non, on ne pouvait pas aller se promener en Ukraine.
Je sens que cette deuxième partie de l'émission va être longue. Quand on demande à Jean qu'est-ce qu'on fait, il remonte à la genèse.
Mais c'est important parce
bien sûr.
Peut-on avoir une politique russe?
Mais moi, je pense qu'on peut avoir une politique russe.
Ils ont une politique de puissance, donc soit on fait une espèce de guerre froide, c'est-à-dire qu'effectivement, on les laisse définir un espèce de périmètre d'influence comme ils ont essayé de le faire après la chute du mur. Moyennant quoi, comme on le disait tout à l'heure, on n'arrive pas à accéder au gaz azéri. Soit on essaye d'exporter un peu nos valeurs, et c'est ce qui se passe en Ukraine. Alors quoi, fallait laisser les Ukrainiens dans leur jus? Enfin, je sais, il n'y a pas de solution.
Peut-être une solution. Si on n'arrive pas à parler avec les Russes, eh bien on cherche des alternatives. C'est pour ça qu'on a parlé du gaz de schiste dans la première partie de l'émission. C'est pour ça que maintenant on va notamment parler de Desertec. Qu'est-ce que c'est Desertec? Eh bien c'est Lutz Notbaum. Bonjour. Vous êtes représentant de l'initiative Desertec auprès des institutions européennes. C'est vous qui allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et c'est Philippe Lambert. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Lambert, eurodéputé belge des Verts, qui va nous donner son avis là-dessus. Et puis je pense que vous avez un petit mot à dire sur le gaz de schiste largement poussé par Business Europe, le patronat européen, juste avant le journal. Voilà, on parle de la politique énergétique de l'Union européenne dans 500 millions d'Européens aujourd'hui. Bon alors, Lutz Notbaum, expliquez-nous, vous êtes d'origine, vous êtes de nationalité allemande, vous parlez un français remarquable, donc je rappelle, vous êtes représentant de l'initiative Desertec auprès des institutions européennes. Juste avant le journal, je disais, en 6 heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année, et ça vous a donné quelle idée?
Desertec, c'est très simple, il faut capter l'énergie, notamment donc le solaire, là où on a le plus de soleil. Voilà.
A priori, pas en Belgique.
A priori, aujourd'hui peut-être. Mais d'une façon générale, là, les rayons, vous savez bien, si vous êtes déjà parti en vacances dans les pays Nord-Afrique, par exemple, Afrique du Nord. Voilà.
Ça bon, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est quoi Desertec? Alors, c'est des panneaux solaires dans le Sahara.
Exactement.
Pour nous chauffer, nous, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni,
a priori,
en Belgique.
Voilà.
Oui.
A priori, pour d'abord profiter au niveau des populations locales, c'est très important que d'abord on a une initiative qui est sociétale. C'est surtout donc un projet pour développer localement un marché, le marché électrique, et exporter vers l'Union européenne au travail de l'Italie, l'Espagne. Bon, on peut en parler tout à l'heure. Quel pays?
Non, mais attendez, le soleil dans le Sahara peut réellement remonter vers l'Europe du Nord.
Absolument, absolument. L'idée n'est pas nouveau. Hein. L'idée date de 1903. Il y a une jolie photo en Égypte, hein, d'ailleurs.
Il y a eu les épisodes précédents, il y a Anthony Noguès.
Oui, parce que moi, j'étais pas né, Jean 80. Sincèrement, Desert Tech, c'est pris au sérieux par les dirigeants européens?
Mais ça, c'est une très bonne question aussi, hein, évidemment. Bon, c'est comme toutes les alternatives, toutes les énergies renouvelables. Hein. Donc là, bon, je regarde mon voisin ici à côté de moi.
Philippe Lambert, eurodéputé écolo.
Voilà, c'est très compliqué. Mais il faut pas lâcher, il faut adhérer, il faut continuer à discuter, à présenter, et surtout, ça c'est ma seule phrase, surtout convaincre la politique au travers de tous les citoyens.
Mais combien de kilomètres carrés de panneaux et quel prix? Combien de kilomètres carrés de panneaux et quel prix?
C'est à peu près la taille de la Belgique. Hein. Simple, on peut pas couvrir toute la Belgique avec les panneaux solaires, hein, ça serait compliqué.
Ça serait une bonne idée pourtant.
Voilà. Pour autant, évidemment, et ça c'est.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de garder 4 mers en Belgique?
Pour autant, le but c'est 15% dans la consommation en Europe. Hein. Donc c'est simplement un chiffre qui est représentatif, mais qui n'est pas la but in fine.
Et le prix?
Vous savez les prix, hein. On est à 6 cents le kilowattheure, on va diminuer, on va augmenter cette discussion dont je suis prêt.
Mais sur l'investissement des panneaux solaires, c'est quoi? C'est 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards?
Voilà, tout au début, on a un chiffre qui malheureusement est parti dans la presse de 400 milliards. 400 milliards, c'est beaucoup.
C'est 400 milliards, c'est pas un problème. Fondamentalement, Philippe qu'est-ce Lambert, que c'est 400 milliards? C'est la facture que l'Europe paye chaque année pour ses énergies fossiles. Chaque année? Pas une fois. Chaque année.
Alors là, c'est l'investissement de départ.
Donc franchement, on me dirait même 1000 milliards, je pense que ça mérite d'être examiné.
D'accord. Vous le poussez, ça a une chance de voir le jour ou pas, Philippe Lambert?
Je ne sais pas si Desert Tech va voir le jour, parce qu'il y a des enjeux, c'était Florence qui le disait, il y a des enjeux géostratégiques évidemment qui rentrent en ligne de compte, on y reviendra, mais il est évident qu'il est logique d'aller essayer d'exploiter les énergies renouvelables là où la production est la plus efficace. Typiquement, l'éolien, ce sont toutes les façades océaniques. Typiquement, le soleil, eh bien en tout cas, c'est pour l'Europe sa façade méditerranéenne, et plus au sud si possible. Maintenant là, c'est plus l'Europe, et donc c'est vrai que la limite stratégique de l'affaire, ben je pense que Tigane Touride nous l'a rappelé lorsque les islamistes ont pris le contrôle de cette exploitation gazière, si je ne me trompe, dans le sud algérien. Eh bien c'est évident que la viabilité d'un projet comme Desert Tech dépend de la stabilité politique de l'Afrique du Nord. Et donc moi
on se retrouverait avec le même problème
évidemment,
qu'avec
évidemment.
Les Russes.
C'est évidemment. Donc c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Je dis simplement que ça doit faire partie d'un processus d'émergence de la démocratie et de l'état de droit dans ces pays-là. Se dire on va remplacer la dépendance à l'Union soviétique, pardon, à la Russie par l'indépendance je sais pas, à la dictature algérienne, pardon, c'est pas une dictature, c'est paraît-il une
grande démocratie.
Monarchie élective un peu comme en France.
Philippe Lambert, c'est très grande forme.
Il n'a pas digéré les panneaux solaires recouvrant la Belgique.
Non. Mais donc, fondamentalement, moi, je crois que c'est un projet qu'on doit avoir véritablement dans nos cartons. Je pense que on ne peut pas dire Desert Tech, c'est la solution à tous nos maux. Tout comme on ne peut pas dire que le nucléaire est la solution à tous nos maux, etc., etc. Si on veut une politique énergétique qui tienne la route, je crois qu'il faut combiner les trois facteurs que Florence mentionnait tout à l'heure. C'est à la fois notre impact environnemental, c'est le coût de l'énergie et c'est l'aspect dépendance. Ce sont ces trois choses-là. Alors, c'est clair que dans notre vision, le facteur indépendance est extrêmement important et le facteur impact écologique est extrêmement important. Et sur la question du coût, il faut regarder le coût sur la durée de vie des investissements. Autrement dit, on compare souvent, et c'est pour ça que j'ai commencé avec ça, la facture d'investissement que requiert le passage au renouvelable à la facture d'exploitation des énergies fossiles.
Mais après, il faut pas confondre indépendance et autonomie. L'autonomie énergétique, ça va être compliqué pour nous en Europe, mais pour être moins dépendant des Russes, soyons un petit peu plus dépendants de la rive sud de la Méditerranée. Voilà, je veux dire.
On peut réduire la dépendance énergétique des Européens quand même. Je vais
Florence.
Dire.
Mais justement, est-ce que c'est pas la principale critique à adresser à un projet comme Desert Tech, c'est-à-dire qu'il est trop gros, parce que vouloir mettre tous nos œufs dans le même panier, on se place dans une position de fragilité. Imaginez non que cette infrastructure qui, comme toutes les infrastructures, doit avoir des points de faiblesse, soit attaquée par je ne sais pas quoi, ou bien j'en sais rien, qu'il y a une météorite qui tombe au milieu, je ne sais quoi. Du coup, ça nous fragilise. Donc, est-ce que la clé, elle n'est pas aussi dans la diversité?
Absolument. Surtout que si vous placez vos œufs sur les panneaux solaires, ils cuisent. Notre baume. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments-là?
Mais tout d'abord, c'est une question de est-ce que c'est un projet gigantesque ou non. Ça, c'est un très bon.
On peut dire oui.
Non, je pense
gigantesque,
pas.
Oui. Disproportionné, peut-être pas, mais gigantesque.
In fine, en roll-out complet, comme on dit en anglais, ça peut être gigantesque. Mais regardez un peu les réseaux ferroviaires, par exemple, en Europe. Regardez peut-être le canal Suez. Pas mal, hein. Je vous invite de rechercher un peu là-dessus. Il y a des gros projets qui, au début, ils étaient tous très sceptiques, ça ne marche pas. Une chose est sûre, il faut démontrer petit à petit que ça fonctionne. Donc, au Maroc, il y aura une installation qui va produire en 2015 l'électricité électrique au travers des panneaux solaires, notamment. Et ça, c'est tout à fait possible d'exporter vers l'Europe. Tout à fait. Il y a déjà un câble qui va jusqu'à Gibraltar. Donc, on peut le faire, si on a envie de le faire.
Et soit dit en passant, les Chinois sont occupés. Hein. Je veux dire, j'ai visité des installations dans les zones désertiques de la Chine en janvier dernier. Et donc, en effet, alors ce sont des installations qui font quoi 250 hectares, 500 hectares, des choses pareilles. Mais ce sont des installations qui sont en train de se multiplier et qui peuvent avoir, si elles sont bien pensées, si elles ne deviennent pas une monoculture dans un endroit déterminé, peuvent se marier, je pense, avec les enjeux
environnementaux. Il y a un problème environnemental assez amusant, c'est qu'on commence à s'apercevoir aussi qu'il y a un problème de recyclage des panneaux solaires. Et les Allemands ont un énorme problème parce qu'ils ont développé massivement, et on peut le voir en Bavière, il suffit de se promener en Bavière, il y a des panneaux solaires absolument partout.
Et ça vit quoi, 20-30 ans, voilà. C'est ça un panneau solaire?
On ne sait pas quoi en faire après. C'est un problème.
On ne sait pas quoi en faire,
pas encore.
C'est pas vrai.
Il faut les démonter.
On sait plus quoi en faire que des déchets nucléaires, très franchement. Hein. Oui. Bon, parce que s'il y a un problème insoluble et qui, je pense, va le rester, c'est bien le problème du recyclage des déchets nucléaires. Ceci étant, les technologies d'exploitation de l'énergie photovoltaïque sont en train d'évoluer aussi. Je veux dire, on ne fait pas des panneaux aujourd'hui comme on le faisait par le passé. Je veux dire, les panneaux à base de silicium,
Du gaz de schiste, vous voulez savoir exactement quelles peuvent être les conséquences sur l'environnement, le principe de précaution avant d'aller de l'avant. Là, sur les panneaux solaires, a priori, mais ça paraît être un raisonnement à court terme finalement, a priori, ça a l'air bien. Et puis après, on se rend compte qu'il y a un problème de recyclage des panneaux solaires. Mais et là, vous êtes quand même engagés, les écolos, dans cette voie-là.
Je veux dire, si vous compagniez...
Le principe de précaution à géométrie variable,
absolument
c'est ce que
pas,
vous voulez dire.
Absolument pas. Un petit peu. Mais regardons, écoutez, on produit combien de millions de voitures par an dans le monde, je veux dire, il faut aussi les recycler. Je dis pas que c'est pas un problème. La question, c'est est-ce qu'on est capable de faire des produits qui durent beaucoup plus longtemps et qui consomment moins de ressources.
C'est comme les batteries des véhicules hybrides.
C'est évident. Donc, personne ne dit que c'est facile. Personne ne dit qu'il y a la solution à tout. Ce que nous disons, en tout cas, c'est que sur la question du gaz de schiste, en réalité, sur l'énergie à bon marché aujourd'hui, qui gagne sa vie en produisant du gaz de schiste aux US? Je voudrais voir les bénéfices faits par les exploitants. Aujourd'hui, le gaz est très bon marché, mais il ne rapporte rien. Il ne rapporte rien. Et donc, quand on va commencer à facturer le coût du gaz, du schiste, le coût réel, le prix va monter. Deux, combien de temps est-ce que la production dure? J'oublie même toute considération environnementale. On doit forer un puits, et puis quoi? Un an après, on doit forer à 500 mètres de là, parce que ça ne rapporte plus. Et donc, à moins de vouloir évidemment couvrir, pas toute la Belgique, mais tout le nord des États-Unis, de puits dont, paraît-il, le patron d'Exxon ne veut pas dans son jardin, eh bien, on se rend bien compte que c'est une solution qui, même sur le plan industriel, ne va pas durer. À supposer même qu'on puisse le faire de manière propre, on en a pour 20 ans. Est-ce qu'avec 20 ans, on a résolu le problème de notre équation énergétique? Non, nous disons, il faut viser des solutions à beaucoup plus long terme que ça. Et ça, le problème, c'est que ce sont des solutions moins faciles. Se lancer dans un projet comme Desertec, se lancer dans la transition énergétique, et on le voit en Allemagne à quel point c'est difficile, eh bien, ce sont des choses qui exigent qu'on se retrousse les manches. On a l'impression que le gaz de schiste, c'est facile, on plante un tuyau dans le sol, on secoue un petit peu et ça sort.
La transition énergétique a quand même des conséquences sur la qualité de l'air à Paris, on s'en aperçoit, parce qu'ils ont réouvert des mines de charbon et le résultat, c'est ça se trouve dans les grandes villes.
Mais évidemment, Jean, mais c'est pour ça que nous disons, donc moi je suis absolument, résolument partisan d'un énergie vaine d'une transition énergétique européenne. Et on voit bien l'exemple allemand qui est très volontariste et que j'ai salué en son temps, montre les limites de l'exercice lorsque on essaye ça dans un seul pays.
Merci infiniment. Lutz Notbaum, représentant l'initiative Desertec auprès des institutions européennes. Florence, Philippe Lamberts, Jean Quatremer, on reste ensemble pour la revue de presse juste après la pause.
L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business.
500 millions d'Européens, c'est l'heure de la revue de presse cette semaine. Nous avons parlé des Russes, nous avons parlé de l'énergie, nous avons parlé de l'Ukraine. Nous sommes toujours ici avec Florence Autret, La Tribune, la GFI, Philippe Lambert, eurodéputé belge, écolo, Jean Quatremer, bientôt peut-être député européen. On a un de nos confrères, Quentin Dickinson de Radio France, qui se présente sur une liste UDI. Vous pourriez pas devenir eurodéputé bientôt, là, en vue des...
Yann Anthony cherche à me chauffer sur un sujet qui me tient à cœur, parce que je considère que il y a deux professions qui sont vraiment totalement incompatible. Exactement. C'est celle de journaliste politique et d'homme politique. Absolument. Donc il y a deux domaines. Là, il devrait jamais y avoir de mélange. Bon. Donc si vous voulez, on peut faire toute une émission sur ce thème-là. Les conflits d'intérêts dans la presse et dans le monde politique.
C'est dommage parce que Quentin Dickinson, grand professionnel, absolument, directeur des affaires européennes pour Radio France à Bruxelles.
Grand professionnel. Et moi, je vais être très désagréable. Je n'en sais rien parce que est-ce qu'au fond, depuis un an ou depuis deux ans, depuis trois ans, il n'est pas très gentil avec les gens du MoDem et de l'UDI et très méchant avec les gens du PS.
Ça leur sert pas à grand chose en tout cas. Bon, dans EU Observer, cette semaine, deux Ukrainiens ont engagé un cabinet d'avocats allemands à Bruxelles. Albert und Geiger, comment on dit Florence, parce que c'est Albert et Geiger.
Il faut que vous montriez comment ça s'écrit, voilà, parce que si je m'en tiens ce que vous dites là. Alors, Albert und Geiger.
Oh, bah, c'est exactement ce que j'avais dit.
Bon, voilà. Ouais,
ils les ont embauchés. En fait, c'est ça qui est très intéressant. Ce cabinet de lobbying à Bruxelles a été embauché afin de faire effacer les noms de ces deux oligarques dignitaires ukrainiens de la liste des personnalités à sanctionner par l'Union européenne. Et selon des sources proches du milieu des cabinets de lobbying, un tel contrat représenterait au moins 80 000 euros par mois. Les deux Ukrainiens pourraient être l'ancien Premier ministre Mykola Azarov et le parlementaire Seri Klouyev ou bien Seri Kourtchenko, le baron du gaz, de la banque et des médias. Florence, vous qui êtes la grande spécialiste du lobbying, vous en pensez quoi ?
Eh ben, je pense que tout s'achète. Ouais. Donc, 80 000 euros, ça donne une idée de ce qu'ils ont,
par mois,
de ce qu'ils ont à perdre. Mmh. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est une mission légitime ? Écoutez, je sais pas, moi, je trouve ça quand même assez, assez troublant.
Mmh. Ben, en même temps, Philippe Lambert, c'est un scandale absolu parce que comment peut-on accepter que si peu soit payé pour reconquérir sa
Le scandale pour vous c'est le montant. Ah tiens, alors Philippe Lambert, ouais, vous trouviez ça un petit peu cheap, 80 000 euros par mois, j'ai bien compris. Mais du coup, j'ai peut-être un montant plus intéressant pour vous que ces deux Ukrainiens, Gazprom, le géant gazier Gazprom, qui vient tout juste là de se faire inscrire sur le registre des lobbies à Bruxelles, parce que Gazprom, il travaille notamment avec la société G+ Europe, qui défend ses intérêts, qui fait sa communication au niveau européen, enfin en tout cas au niveau des institutions européennes. Budget annuel, un peu plus d'un million d'euros.
Oui, ben, ce n'est pas étonnant. Il faut aussi, moi je plaide la bonne foi de Gazprom, qui s'était inscrit par erreur sur la liste des organisations de bienfaisance en Europe et qui donc a réalisé son erreur un petit peu tard et s'est maintenant déclaré comme lobbyiste. Non, ben franchement, on avait bien compris. Mais s'ils ont les moyens de se payer Schröder, j'imagine que payer un million à lobbyiste ici, c'est de la
meilleure. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui maintenant effectivement est le lobbyiste en chef.
Et un million, c'est très 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 sous-estimé, je pense. Oui, il joue sur en fait précision des exigences, exactement, concernant les déclarations, parce que Gazprom n'a pas un bureau ici, ils ont une ambassade.
Exact.
Ils ont une ambassade, ils sont 20 ou 30, enfin je veux dire, c'est énorme. Et je veux dire, ils sont plus que, je pense, les Slovènes, quoi. Non. Ouais.
Donc un million, ça couvre à peine leurs frais de fonctionnement pour 20-30 personnes.
Oui, je pense. Après, c'est des chiffres qu'il faut vraiment manipuler avec prudence. Ouais, ils ont un énorme bureau, oui.
Ouais. Ce registre est encore extrêmement imparfait. Un, il n'est pas obligatoire, et deux, en effet, les critères en sont extrêmement vagues. Et donc, je pense qu'il faudrait être capable d'être aussi précis sur le registre que sur, vous savez, le registre qu'on essaie de tenir des trusts et des, de toutes les organisations opaques sur le plan financier.
D'ailleurs, ils s'en cachent pas. Enfin, ils l'ont inauguré en grande pompe, je crois même. Est-ce que c'était pas en présence du commissaire à l'énergie l'année dernière, en décembre?
C'est clair que eux ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas. Donc moi, c'est pas eux qui m'inquiètent très honnêtement. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce sont ceux qui, comme les premiers dont vous parliez, se cachent derrière des cabinets d'avocats. Donc on ignore tout à fait qui se cache derrière du lobbying, et c'est là qu'on a vraiment un problème de transparence ici à Bruxelles.
Transparence, ou plutôt invisibilité, sans transition. Pierre Moscovici, invisible lundi à la réunion
de la Commission économique et monétaire
dont vous faites partie.
Absolument.
Philippe Lambert.
J'étais sur les rangs pour l'interroger.
Pierre Moscovici, le ministre des Finances, qui devait être auditionné et il n'est pas venu. C'est quoi, la troisième fois qu'il
vous a... La quatrième ou la cinquième, en fait.
Quatrième ou cinquième, qui vous posait un lapin. Et du coup, Sharon Bowles, la patronne de la Commission économique et monétaire, la libérale britannique, qui lui a, en quelque sorte, adressé un blâme, Florence.
Un blâme. Elle lui a dit, écoutez, une audition devant des députés n'est pas une variable d'ajustement dans un agenda ministériel. Et si vous voulez comprendre quelque chose à ce qui se passe ici, eh ben, il faut être présent, il faut accepter de venir discuter. Et au reste, c'est particulièrement inimportant vu la situation budgétaire de la France.
Pierre
Moscovici, donc, elle s'est lâchée.
Pierre Moscovici, ancien ministre des Affaires européennes, ancien député européen, il connaît bien la mécanique européenne, il connaît bien, il est très proche d'Olli Rehn, pourtant c'est un libéral, le commissaire en charge des affaires économiques. Il a su vraiment nouer des relations excellentes au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'il fait une erreur pareille? La France qui a obtenu un délai de 2 ans supplémentaire, donc là maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais la France qui avait disposé d'un délai quand même.
En tout cas, à la table de l'Ecofin, donc le Conseil des ministres des Finances, Pierre Moscovici ne me semble pas, en tout cas du point d'observation qu'elle met au Parlement européen, d'être un des ténors autour de la table. Je veux dire, ce qu'on me raconte des échanges, c'est pas vraiment lui qui bat la mesure et qui indique la marche. Je pense que c'est plutôt son correspondant allemand.
Donc Jean, alors sachant que Pierre Moscovici, en tout cas ce qui se murmure dans les couloirs, c'est qu'il rêve d'un poste de commissaire européen, même d'un super poste de commission européenne.
En fait, il y a deux postes qui viseraient, et c'est la France vise un de ces deux postes. C'est soit une présidence permanente de l'Eurogroupe, soit un poste de super commissaire européen. Au minimum, le poste actuellement occupé par le Finlandais Olli Rehn, mais sans doute avec un certain nombre de sous-commissaires sous lui, donc une sorte de Bercy transposé à Bruxelles. Alors, il ne dit pas officiellement qu'il est candidat, parce que le remaniement ministériel en France est pour bientôt. Et c'est vrai que dire qu'on est candidat à Bruxelles, c'est le meilleur moyen de dégager, et il n'a pas forcément envie de perdre Bercy. Mais clairement, il mène campagne, il organise des déjeuners maintenant avec les journalistes à Bruxelles, il a eu même des déjeuners qui étaient prévus avec des ministres des Finances, dont Schäuble, donc il est clairement désormais sur les rangs.
Pierre Moscovici, qui devrait être, je dis ça maintenant une fois que vous avez tous parlé, mais qui devrait être notre invité dans 500 millions d'euros dans les semaines à venir. Jean et Florence seront là, visiblement, pour le mettre sur le grill, avant le hearing, comme dit Jean Quatremer, des eurodéputés. Philippe Lambert, pourquoi pas? On va y songer. Un nouveau chroniqueur, pourquoi pas? Danny Cohn-Bendit, il est bien sur Europe 1. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas notre verre aussi de service? Tiens, justement, écolo. Des chargeurs universels profiteraient à tous. Le Parlement européen, vous, Philippe Lambert, vous avez adopté un projet de loi prévoyant l'introduction de chargeurs universels pour les appareils mobiles. Les bénéficiaires seront nombreux, se réjouit le quotidien libéral finlandais Savon Sanomat. L'adoption, là Florence, vous n'allez pas m'aider sur ce coup-là, l'adoption donc finalement de cette directive permettrait d'éviter chaque année 51 000 tonnes de déchets et réduirait les coûts de production. Philippe Lambert.
Excellent. Excellente nouvelle. Combien en avez-vous dans vos tiroirs de ces chargeurs?
Je crois qu'en moyenne, bon, on en a 5, 6, 7.
Il y a Anthony, les jette à la poubelle, en fait.
Je peux vous dire que donc on a 4 enfants, mon épouse et moi. Donc on est 6 à la, enfin on était 6 à la maison. Je ne sais plus où les mettre. Et donc en effet,
les enfants ou les chargeurs?
Non, les enfants ils trouvent très bien à se mettre tout seul. Les chargeurs, c'est insensé. Évidemment, plus vous en avez, moins vous avez facile à trouver celui dont vous avez besoin au moment crucial. Donc il était vraiment
moins
temps
avoir facile
en
Belge. Je sais quand c'est difficile. C'est quand c'est difficile.
Je peux accentuer l'accent si vous voulez.
Moi je dirais non peut-être.
Non peut-être. Est-ce que vous, Jean, vous avez plusieurs chargeurs?
Non, parce que moi, je suis prisonnier d'une société californienne de Palo Alto, et je dois dire, donc j'ai tout le matériel qui convient, mais régulièrement, le iPhone, justement. Mais c'est très intéressant parce que là, au moment où on avait eu un code de bonne conduite qui avait été adopté par la Commission européenne en accord avec l'industriel, où chacun s'engageait volontairement à adopter la mini clé USB,
exact.
Quasiment 6 mois après, Apple changeait sa connectique, une connectique qu'on appelle une connectique propriétaire,
exactement,
et qui n'est adaptée à rien d'autre. Et donc, non seulement c'est adapté à rien d'autre, mais les appareils entre eux ne sont plus adaptés. Donc, il faut acheter des adaptateurs. C'est fantastique. Donc, ça, si on pouvait faire rendre gorge à Apple sur ce problème de connectique, ce serait génial.
Merci Philippe Lambert, eurodéputé écolo belge. Merci Florence Autrey, le charme de cette émission, La Tribune, la GFI. Merci Jean Quatremer.
L'intelligence, cette émission.
On va dire ça. Et l'humilité.
Et l'humilité.
Et l'humilité. Et le tact,
et
avant
la
tout. Libération, les coulisses. Voilà, le mot de la fin pour Philippe Lambert. Dans toute émission, il faut un bouffon. Oui, vous voulez dire quelque chose encore, Jean?
Oui, j'ai pas insulté le personnel politique quand même. C'est pas possible.
N'insultons pas le petit personnel politique. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, samedi 11h, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous. À l'écoute de BFM Business et messages personnels. Pierre Moscovici, tout ça, c'était juste pour rire, hein. Vous
Absolument.
Pouvez venir.
Vous pouvez venir.
On vous aime. À bientôt.